l'heure de l'info sur VOA Afrique.
Bienvenue à l'écoute de l'émission interactive de VOA Afrique, à votre avis. Nathalie Barge avec vous dans les studios de La Voix de l'Amérique à Washington pour recueillir des commentaires de nos auditeurs. Les dirigeants de la CDAO ont décidé à Accra de ne pas imposer de sanctions au Burkina Faso et demandent aux autorités militaires l'élaboration rapide d'un chronogramme raisonnable pour le retour à l'ordre constitutionnel. L'organisation régionale maintient les sanctions contre le Mali et la Guinée. Elle a dit attendre un autre calendrier raisonnable de la part des autorités militaires maliennes pour les alléger et a envoyé un même message à la Guinée. Alors ces décisions, selon vous, sont-elles adaptées à chaque situation? Le Burkina Faso risque-t-il le même sort que le Mali et la Guinée s'il ne répond pas aux exigences de la CDAO? Ce sont les questions qui vous ont été posées sur le Facebook de VOA Afrique. On va continuer en ce sens. Merci beaucoup déjà par avance pour tous ceux qui ont participé aux réponses déjà sur le Facebook de VOA Afrique. On a tout de suite Vincent Seounou qui est au Bénin. Vincent, comment allez-vous?
Très bien, Nathalie.
Alors Vincent, vous dites que le Burkina Faso risque le même sort que la Guinée et le Mali s'il n'établit pas vite son chronogramme pour revenir à l'ordre constitutionnel. Vincent, on vous écoute.
Oui, tout à fait. Le Burkina Faso risquera le même sort que la Guinée-Conakry et surtout le Mali de Assimi Goïta. Parce qu'on on lui a donné beaucoup de temps, assez de temps pour, c'est-à-dire revenir à l'ordre constitutionnel s'il ne fait pas trop vite. Et alors que le Mali, bien là, c'est-à-dire, on avait demandé au Mali de faire vite pour, revenir à l'ordre constitutionnel s'il ne rétablit pas vite, c'est-à-dire le chronogramme. Parce que le Mali avait demandé 5 ans. Mais jusqu'à présent, le Burkina Faso n'a pas encore établi un chronogramme, c'est-à-dire de bonne volonté et aussi raisonnable. S'il ne fait pas trop vite, il risquera les mêmes sorts comme le Mali et la Guinée-Conakry. Mais les circonstances sont très différentes en matière de ces différents coups d'État. Ce qui s'est passé au Mali et on a assisté à un coup d'État n'est pas le même. Ce qui s'est passé en Guinée-Conakry, on a assisté. C'est-à-dire un coup d'État n'est pas le même cas comme ce qui s'est passé au Burkina Faso. Donc ce qui veut dire que le Burkina Faso doit faire tout possible pour ne pas rentrer dans les mêmes sorts comme les autres pays précédents.
Un grand merci Vincent, on vous dit à très bientôt. On a au Mali, Najou Mali India, comment allez-vous?
Oui, merci, ça va.
Alors, vous dites que la CDAO doit changer, selon vous, de politique et vous dites que les sanctions ne marchent pas toujours. Najoum, on vous écoute.
Voilà, bon, je disais que justement dans les commentaires que les sanctions ne marchent pas toujours. Comme je l'ai entendu, vous l'avez dit tout de suite, les contextes ne sont pas les mêmes. Donc si les contextes ne sont pas les mêmes, ce qui veut dire que les problèmes aussi ne sont pas les mêmes. Donc les sanctions aussi, ou bien la politique à partir de laquelle on doit envisager des solutions, doivent aussi différer d'un contexte à un autre contexte. Et maintenant, fondamentalement, j'ai dit que les sanctions ne marchent pas, parce qu'on a l'impression que ce sont ces sanctions-là qui ont donné un regain, ou bien qui ont tout de suite mis de l'huile sur le feu. Donc ça fait que d'un coup de cas à un autre, le CDAO n'a pas fini avec le Mali, le Burkina rentre en jeu, la Guinée rentre en jeu, et il y a eu une tentative de coup d'État en Guinée-Bissau. Donc il y a un problème, ce qui veut dire que les sanctions ne sont pas toujours adaptées à ces problèmes-là. La CDAO doit changer de politique, elle doit changer de vision, elle doit mieux cerner les problèmes pour vraiment être l'inspiration de chaque peuple dans son pays respectif.
Najoum, une toute petite question. Est-ce que vous pourriez nous dire, vous qui êtes malien, si vous ressentez que ces sanctions ont un poids particulier sur les populations dans votre pays?
Bon, jusqu'à là, on sent quand même que ça va, ça marche, mais pour combien de temps? On ne sait pas d'abord. Pour combien de temps, on ne sait pas. On sait que lorsque on ferme les robinets, surtout au niveau de la Banque centrale, qui est l'UMA, donc forcément, il y aura des problèmes après. Mais maintenant, ces problèmes vont être envisagés ou bien résolus comment, on ne le sait pas d'abord. Mais tout ce qu'on sait, c'est que plus ces sanctions s'endurcissent sur le Mali, et plus peut-être la configuration politique de l'Ouest africaine, plus particulièrement, va changer. C'est-à-dire que ce qu'on pense que ça va être, peut-être on aura pire que ça. Voilà. Peut-être qu'il y aura un démantèlement même de ce qu'on appelle l'Afrique de l'Ouest.
Merci beaucoup, Najoum. On vous dit à très bientôt. On a Ali Oumar qui est au Tchad. Ali, comment allez-vous? Ali, est-ce que vous m'entendez?
Oui, bonsoir.
Oui, bonsoir. Alors Ali, vous pensez la même chose que Vincent qu'on a eu tout à l'heure. Vous pensez que le Burkina Faso risque de subir le même sort que le Mali et la Guinée. Ali, on vous écoute.
Bon, je me dis que le Burkina va subir le même sort que le Mali et la Guinée. Donc, la raison pour laquelle je dis cela, parce que si la CDO ne doit pas prendre la confiance de faire ceci et cela, parce que la situation ne changera pas. Et aussi, depuis le 3, n'est-ce pas, on s'est assis à Accra, à Guinée, à Ghana. Mais s'il va prendre une décision comme telle, il faut que le 15 membres, parce qu'ils sont déjà oubliés le Mali, la Guinée et le Faso. Donc c'est pas ça le cas. Parce que s'ils sont même en transition, il faut qu'ils s'intègrent dans le débat pour qu'on change.
On n'entend plus très bien Ali Oumar, mais en tout cas, on a bien entendu le début de vos propos. On vous dit à très bientôt, Ali. Un grand merci. Avant de prendre Abdourahmane Koulibaly, qui est à Conakry, je voudrais citer quelques commentaires. Celui d'Anad Daou, écoutez bien, elle dit la CDAO est dans la mission délicate de s'extirper sans trop perdre la face de la situation que ses dirigeants ont créée, dit-elle. Alors, c'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Le coup de poing des dirigeants qui s'était matérialisé en lourdes sanctions contre le Mali afin de faire plier ses autorités a eu l'effet contraire, dit-elle. Et maintenant, face à la montée du panafricanisme, ils n'ont d'autre choix que de revenir en arrière tout en faisant semblant d'avancer, dit-elle. C'est le commentaire de Anna Daou. On a celui de Souleymane Koulibaly qui dit que ses dirigeants ont finalement jaugé l'impopularité de leurs sanctions sous la pression à travers le Mali, dit-il. Munkaila Yaouza pense que la CDAO n'a aucune exigence. Il suffit, dit-il, juste aujourd'hui que les militaires burkinabés prennent tête à la France et on verra sa face cachée. Et enfin, Rex Chimini dit comment l'un peut subir une sanction tandis que l'autre ne le subit pas. Il pense que la CDAO doit revoir ses décisions vis-à-vis de la Guinée. On prend tout de suite Abdourahmane Koulibaly qui est à Conakry. Abdourahmane, comment allez-vous?
Bonsoir, Vue Africa. Bonsoir, le monde entier.
À vous la parole, on vous écoute.
Donc, notre problème, elle est africaine d'abord, c'est-à-dire avant de parler de la Guinée, du Mali et du Burkina Faso, c'est-à-dire l'Afrique a perdu la valorisation de ses institutions, c'est-à-dire vision CDAO de 2020 et vision de l'Union africaine 2063. Donc, il nous faut maintenant repenser sur notre système de gouvernance, notre système sécuritaire et promouvoir maintenant le développement durable, c'est-à-dire de prendre la route des ODD, de l'objectif du développement durable. Donc on n'a plus de temps. Donc si nous voyons aujourd'hui les militaires, parce que les militaires aussi étaient là, quand la mal-gouvernance passait, donc il faut la reprise de notre objectif, la valorisation de nos institutions, d'éviter des erreurs, parce que la transition, c'est une période d'exception. Donc, ce n'est pas un avenir durable pour la jeunesse africaine. La succession entre les militaires d'abord, les civils. Donc, il nous faut repenser dès maintenant sur notre système de gouvernance, d'impliquer la population à la prise des décisions pour la démocratie inclusive et participative. Et surtout le respect aussi, c'est-à-dire du multilatéralisme. Parce qu'aujourd'hui, si nous voyons que les crises maliennes continuent, c'est parce qu'il y a d'autres puissances qui sont impliquées. Il y a de la guerre électorale entre Paris et la Russie, ainsi de suite. Quoi. Donc il faut que les Africains se remettent maintenant pour le travail. Donc notre objectif, c'est l'objectif du développement durable. Ça a été signé à la place. Donc c'est notre objectif du siècle. Donc,
merci beaucoup.
D'ici 2030, quel est notre programme d'ici 2030?
Merci beaucoup Abdourahman pour l'objectif 2030. Je suis obligée de vous laisser là. Je vous dis à très bientôt. On a d'autres auditeurs qui attendent, notamment Christian Politazi qui est en République démocratique du Congo. Christian, comment ça va?
Oui, ça va très bien, Nathalie.
Alors, vous dites, Christian, que la CEDEAO a réalisé que ces multiples sanctions demeurent improductives, hein, pensez-vous, et vous dites qu'elle devrait activer le côté diplomatie afin de trouver un terrain d'entente avec les différentes juntes. Christian, vous écoute.
Oui, donc, déjà, les innombrables sanctions de la CEDEAO n'ont produit pas grand-chose. Et donc, il est vraiment de bon aloi que l'organisation se révèle la plus justement activer ce côté de la diplomatie. Parce que vous devez bien savoir que lorsqu'il y a guerre ou encore face à ce genre de situation, il faudrait en tout cas mettre en avant-plan trois mécanismes. Il y a l'option politique, l'option militaire, l'option diplomatique. Et donc ici, je crois que c'est l'option diplomatique qui, en tout cas, demeure le levier pour transporter, chercher une solution par rapport à ce qui se vit dans ce pays, notamment voilà, la réduction du délai concernant la tenue des élections. Et donc, si on le met en exergue, nous pouvons facilement avoir une solution beaucoup plus plausible et à la population et l'organisation pourront facilement évoluer. Parce que lorsqu'on utilise le c'est vrai, on sanctionne la vente, mais en réalité, c'est la population qui va en pâtir. Et donc, il ne faudrait pas chercher une chose au son contraire, et il faudrait vraiment chercher le chemin le plus facile à sauver tout le monde, Nathalie Basse.
Un grand merci Christian pour votre participation. On vous dit à très bientôt. On prend tout de suite au Burundi, à Bujumbura, à Nice, à vous Guy Arémier. À Nice, comment allez-vous?
Oui, ça va bien.
À vous la parole, on vous écoute.
La CEDEAO veut pousser à la tenue des élections sans punir le peuple. C'est une stratégie qui vise à accentuer la pression sur la gente burkinabé tout en préservant la population. Mais cette mesure en soi est insuffisante pour faire plier la gente qui a renversé le président démocratiquement élu. Il ne fait aucun doute que la prochaine étape est la sanction économique. C'est la sanction efficace qui restera à la CEDEAO pour exiger le transfert du pouvoir aux civils. En ce qui concerne le Mali et la Guinée, si l'organisation a décidé de maintenir les sanctions en place contre la gente guinéenne et marienne qui refuse pour l'heure de fournir le calendrier électoral, si toute la gente Omari affiche la volonté de rapporter les élections de la CEDEAO exige en tenue de la date fixée. Mais pour la gente burkinabé, si la CEDEAO s'est bien gardée jusqu'ici d'agiter la menace d'un nouvel embargo et sans donner l'impression de punir le peuple. Prenons par exemple l'embargo économique décrété par la CEDEAO après le coup d'État au Mali du 18 août 2020. A laissé des traces au Mali. Les Maliens ont beaucoup souffert de la fermeture des frontières, surtout à l'aide des transactions financières qui avaient suscité beaucoup de critiques. Merci, VOA Afrique.
Merci à vous, Anissé. On vous dit à très bientôt. Avant de prendre Aliou Barry, qui est en Guinée, je voudrais lire notamment la réflexion de Alphonse Ifono, une réflexion intéressante qui propose le même chronogramme que le général de Gaulle a proposé aux Français, soit 14 ans pour le Mali aussi. On a la réflexion de Inoussa Tiendrebeogo qui dit c'est toutes ces pressions qui nous ont conduits dans les coups d'État. Ils doivent laisser les Maliens retrouver l'intégrité de leur territoire avant d'organiser les élections. élections. Par contre, si la pression les pousse à organiser les élections avant, avec 20% de la population, dit-il, qu'en sera-t-il des 80% restants? Nous devons être honnêtes envers nous-mêmes et les autres, dit-il. On prend tout de suite donc Aliou Bari, qui est en Guinée. Aliou Bari, comment allez-vous?
Je vais bien, vous?
Formidable, ça va très bien. On vous écoute. Alors, vous dites que les coups d'État font mal dans certains pays qui ne le méritent pas. Dites-vous, par contre, pour d'autres, c'était nécessaire.
Exactement. Sur le premier point, là, vous avez touché, il y a dans d'autres pays où ce n'est pas nécessaire. Parce que si le chef d'État qui est là avec son clan n'a pas violé la Constitution ou n'a pas piétiné la Constitution, le chef qui est là, on doit le laisser continuer son mandat. Parce qu'il est en phase de faire son mandat. On doit le sanctionner à travers des élections qu'on va organiser. Récemment, dans quelques années, on va organiser des élections et on doit sanctionner les chefs d'État à travers les urnes. Mais s'il a piétiné la Constitution, il a changé la Constitution dans l'optique de se présenter, ces gens-là ne méritent pas d'être accompagnés. Donc, le coup d'État, c'est nécessaire dans ce pays. Par exemple, le Burkina ne méritait pas un coup d'État après avoir perpétré plus de 5 coups d'État. Où ça les a menés aujourd'hui? Nulle part. Ils ont même ramené la Constitution qui était, et ainsi de suite les institutions. Donc, ce n'est pas nécessaire tout le temps de mettre des coups d'État. Ça retarde le pays et ça retarde les pays africains, surtout les pays francophones. Aujourd'hui, là où nous sommes, les pays qui sont en coup d'État, on sont en retard parce que les institutions de Bretton Woods ne vont pas aider. Les partenaires internationaux aussi ne vont pas aider les pays en phase de crise. Donc on doit se mettre en tête qu'aujourd'hui, pour qu'on avance plus, il faut qu'on laisse les chefs d'État démocratiquement élus qui sont décidés, qu'ils fassent leur mandat jusqu'à la fin. S'ils ne parviennent pas à satisfaire la population, qu'on les sanctionne à travers des urnes. C'est la meilleure méthode pour sanctionner. Il faut connaître ces idéologies, ces idées dans nos têtes pour pouvoir sanctionner à travers lui. Mais en Afrique, on a un sérieux problème. Il n'y a que des hommes, mais des hommes faibles qui n'osent pas dire la vérité. On a des poignées de personnes qui osent dire la vérité au chef parce que les hommes qui sont là à travers un chef qui les maintient et qui dicte la loi sur eux. Donc ils sont tenus obligés de se soumettre à ces chefs alors qu'on n'est pas obligé de se soumettre aux chefs parce que toutes les constitutions en Afrique sont claires et nettes. Donc, on n'est pas obligé de se soumettre à un ordre illégalement illégitime. Donc, il faut mettre ça en tête.
Merci beaucoup.
Parce que les gens qu'on est là, on les respecte et on doit les respecter parce qu'on a juré sur nos constitutions de respecter et de faire respecter ce qui est dedans.
Donc, merci beaucoup, Aliou. Je vais être obligée de vous couper malheureusement parce qu'on a d'autres auditeurs qui attendent. À très bientôt, on a Niblis Ali qui est au Tchad et qui voudrait parler du Mali. Niblis Ali qui pense que le CNT doit se montrer un peu diplomate pour la sortie de crise, dit-il. Niblis Ali, comment allez-vous?
Bonsoir, la VO Afrique, je me porte bien.
Formidable, on vous écoute.
Merci. La CEDEAO, elle condamne tout coup d'État d'un président élu légitime. Il est considéré, c'est-à-dire tout président élu légitime est considéré comme un président légitime. Mais il y a trois facteurs à réviser. La CEDEAO doit réviser trois facteurs différents. Les cas burkinabés. Donc il y avait eu un soulèvement des masses, puisque la population burkinabé se sentait dans l'insécurité totale, ce qui a poussé le soulèvement et ce qui a fait démissionner le président Roch Marc Kabore. Et les cas guinéens aussi, c'est le troisième mandat de l'ex-président Alpha Condé qui a fait susciter la colère de la population et quelques militaires, ce qui a fait changer l'ancien régime. Et les cas maliens, déjà, la junte malienne a déjà coulé quelques mois de la transition. Donc, la junte, il s'est présenté encore avec 5 ans de plus. Donc, en réalité, la durée d'une transition, comme ça doit durer 36 mois, que le Conseil national malien se montre un peu diplomate afin d'éviter certaines sanctions, afin d'éviter certaines sanctions de la CEDEAO.
Un grand merci, Niblis Ali. On vous dit à très bientôt. On prend tout de suite Serge Djino, qui est en République démocratique du Congo. Serge, comment allez-vous?
La population.
Bonjour, bonsoir, Véouka. Merci beaucoup, merci pour l'occasion. Merci, je salue toute l'équipe et à tout le monde, à ceux qui nous suivent pour le moment.
C'est très gentil et c'est nous qui vous remercions.
Oui. Je pense en paradigme de réflexion que ce virus en Afrique, c'est un problème d'abord de manque de. C'est un problème d'abord de manque de respect des textes qui sont mis en place dans des pays différents, notamment en Afrique. Et donc, et en ce qui concerne les sanctions, moi je pense que ces sanctions devaient être individuelles. Et donc, on devait normalement, l'organisation régionale ou encore africaine, devait commencer à sanctionner les individus cas par cas et non condamner directement le pays. Parce que vous vous souviendrez, lorsqu'on condamne le pays, du coup, c'est la population au sein de ce pays qui souffre. Et donc, on devait penser et tâcher à condamner les gens qui posent ces actes et non directement penser à condamner le pays. Et les dirigeants africains doivent surtout respecter et tenir leurs paroles. Ce sont des problèmes qui arrivent, c'est un virus notamment qui arrive suite à des manques de respect des textes. Et donc, vous voyez que ça peut toujours. C'est un problème, c'est une situation problème qui, alors, jusqu'à preuve du contraire, si on ne prend pas des mesures d'étoile, on risquerait de tomber toujours dans pareille situation.
Merci beaucoup.
Ce sera pas bon.
Merci beaucoup, Serge, pour votre participation. Je le rappelle, à partir de la République démocratique du Congo, on vous dit à très bientôt. On prend notre dernier auditeur avant de lire des commentaires. C'est Léopold Bainoné qui est à Maroua, dans le nord du Cameroun. Léopold, comment allez-vous ?
Bonsoir, madame.
C'est un plaisir de vous entendre, hein, comme tous nos auditeurs. On vous écoute.
Bien, j'ai dit dans mon commentaire que la CEDEAO s'est versée à son mission. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas, elle n'a pas prévenu les dangers qui pouvaient en venir en cautionnant partout les troisièmes mandats. Et si aujourd'hui, la CEDEAO décide encore de condamner le Burkina, il faut comprendre qu'il n'y a que trois pays qui vont déjà se révolter, à savoir le Mali, la Guinée et en plus du Burkina. Et donc la décision de ces chefs d'État de ne pas sanctionner le Mali, de ne pas sanctionner le Burkina, mais plutôt de l'accompagner, est à mon niveau un peu salutaire, parce que s'il faisait encore sanctionner le Burkina, ça va encore mettre de l'huile sur le feu. Donc, il serait mieux pour la CEDEAO de vouloir accompagner ces États en crise-là, pour que dans un bref délai, on revienne à l'ordre constitutionnel. C'est ce qui m'a poussé à vous laisser un commentaire, là, madame.
Un grand merci, Léopold Bainoné, à partir de Maroua, dans le nord du Cameroun. On vous dit à très bientôt. Revenez participer à nos émissions. On termine avec une petite lecture des commentaires de nos auditeurs, notamment celui de Laurent Mouamba, qui a dit « Le seul mal qui tue les Africains, c'est la politique. Ce qui est grave est que ces militaires développent en amont des ambitions politiques. » John Lorounion dit « La fébrilité de la CEDEAO crée l'instabilité constante dans la sous-région. Ils sont capables de s'unir pour mettre fin à la menace djihadiste. Ah non, ils sont incapables, dit-il, pardon, incapables d'adopter la fermeté avec les tripatouilleurs de constitution, incapables de demander ensemble la révision des accords de coopération, surtout dans le domaine économique, dit-il. Ils ont donné des alibis aux faiseurs de coups d'État et on retombe petit à petit dans le chaos. C'est John qui le dit. Jonathan Tsongo pense que l'ONU, l'Union africaine et la CEDEAO ne doivent pas attendre les coups d'État pour se prononcer. Ils doivent surveiller la manière dont les chefs d'État conduisent les processus démocratiques dans leur pays, dit-il. Gift Evans, il pose une question. Il dit, est-ce le retour à l'ordre constitutionnel qui va sécuriser le Burkina Faso et le Mali? Et Abdou Willinda dit, le problème de l'élection ne nous intéresse pas pour le moment. La CEDEAO ne parle même pas du problème des nombreux déplacés, les gens qui ont fui pour laisser leur village et n'arrivent même pas à manger aujourd'hui. aujourd'hui, dit-il. On a la réflexion de Kéfin Kouyaté qui dit les récents événements au Burkina Faso et en Guinée-Bissau ont mis de l'eau dans le vin de la CEDEAO. Il lui revient de revoir son approche à travers un diagnostic sur le principe de la gouvernance politique et des mesures de dissuasion des juntes. Voilà pour cette émission quotidienne à votre avis. C'était Nathalie Barge avec vous à la technique et aux appels téléphoniques. Georges Léonard Sagnot, on vous dit bonsoir, bon courage et à très bientôt.